À travers cette liturgie et cet évangile, le Seigneur nous met en garde sur tout ce qui pourrait faire de l'ombre à la présence de Dieu dans la vie des hommes. Et en se mettant, non pas comme des médiateurs, celui qui veut faire passer la présence de Dieu, mais en se présentant plutôt comme des obstacles, ceux qui veulent récupérer la gloire qui reviendrait à Dieu, des obstacles à la présence de Dieu. Alors cet évangile s'adresse à tous, mais vous l'aurez remarqué, il s'adresse en particulier aux responsables, ceux qui ont des responsabilités, et particulièrement les responsables religieux. Et je reprends volontiers à mon compte ces paroles de saint Augustin. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir à enseigner les autres. Celui qui se tient là et qui écoute, lui, ne commet pas de faute en parole. Mais celui qui parle, même s'il ne commet pas de faute, ce qui est difficile, souffre cependant et craint de se tromper. Il vous faut donc non seulement écouter ceux qui parlent, mais avoir pitié d'eux, parce qu'ils ne le font qu'en tremblant. Donc je me permets d'insister pour que vous priez pour vos prêtres, pour ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, et pour que nous prions pour les prêtres de notre diocèse particulièrement, pour que nous ne chutions pas dans les dangers qui sont décrits dans cet évangile. Car comme dit saint Pierre dans son épître, « Votre adversaire, le diable, comme un lion qui rugit, rôde, cherchant à dévorer, il est facile de tomber dans les pièges que Jésus nous décrit. » Priez donc pour vos prêtres et priez aussi pour votre futur évêque. Si nous prions bien, eh bien nous aurons ce qu'il nous faut. Dans l'Évangile, il nous a donné quatre obstacles. Quatre obstacles à faire passer le Seigneur, quatre obstacles qui guettent donc en premier lieu les responsables religieux, mais tous les responsables en général, et puis finalement chacun de nous. Le premier obstacle qui nous est dit, c'est « ils ne disent », Jésus nous dit, « ils ne disent et ne font pas ». C'est le problème de la cohérence de vie. Comme dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Il faut rechercher continuellement cette cohérence de vie qui est un élément majeur pour que l'évangile et pour que Jésus rayonne dans notre monde. C'est souvent cette difficulté qui empêche, cette difficulté de cohérence de vie qui empêche l'évangile de rayonner. Combien de fois j'ai pu entendre des gens qui disaient que ceux qui vont à l'église ne sont pas meilleurs que ceux qui n'y vont pas. Ce à quoi je réponds, ceux qui vont à l'église, ils essaient de devenir meilleurs. Ça, j'en suis sûr. J'espère que je ne me suis pas trop engagé. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que c'est un grand défi pour nous, cette cohérence de vie qu'il nous faut rechercher tout le temps, chercher à vivre. Et sans doute que plus nous serons appelés et nous sommes appelés à évangéliser, à annoncer Jésus-Christ, plus nous sommes appelés à être vigilants sur ce point de cohérence. Il faut vraiment que notre vie corresponde à ce que nous proclamons. Si nous disons que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, il faut qu'il le soit vraiment dans notre vie. Si nous disons que Dieu est amour, il faut vraiment que nous le vivions concrètement dans notre vie. Le deuxième aspect, le deuxième obstacle que nous souligne Jésus dans ce passage d'Évangile, c'est de faire attention lorsque nous avons une position de responsabilité à ne pas pratiquer cette responsabilité sous la forme d'une domination, mais plus sous forme d'un service. Il ne faut pas pratiquer en voulant imposer des choses que nous ne voudrions pas nous-mêmes vivre. Comme dit Jésus dans l'Évangile, ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas en remuer du doigt. Il y a ce danger d'avoir une position d'autorité, de responsabilité, qui nous ferait imposer aux gens des choses que nous-mêmes nous ne voudrions pas faire. Le danger d'utiliser l'autorité comme une domination. Voilà. Et donc, nous devons être vigilants là-dessus, surtout ceux qui ont des responsabilités, puis aussi chacun de nous dans notre manière dont nous nous mettons en relation avec les autres. Le troisième obstacle que Jésus donne, c'est la volonté de vouloir paraître, de vouloir être reconnu, de vouloir recevoir des considérations. Alors, là-dessus aussi, qui n'aime pas recevoir des remerciements? Qui n'aime pas, quand il rend un service, avoir un minimum de considération? Et quelque part, c'est pas mauvais en soi. Mais nous devons être vigilants, parce que ça peut devenir très vite un travers, et lorsque nous n'en avons pas, eh bien, en souffrir exagérément, et puis surtout rechercher, rendre des services pour pouvoir avoir ces remerciements, ces considérations, pour pouvoir paraître. Le quatrième obstacle que nous donne Jésus, le quatrième et le dernier, c'est donc se mettre un peu à la place de Dieu. Ne pas se faire appeler rabbi, ne pas se faire appeler maître, ne pas se faire appeler père, parce qu'il n'y a qu'un seul père, celui du ciel. Et donc, il y a deux approches à ce passage. La première approche, c'est le sens littéral. Nous pouvons le prendre dans le sens littéral. Ne pas utiliser le mot rabbi, ne pas se faire appeler rabbi. Je pense que ça ne nous guette pas trop dans l'Église catholique. Ça, là-dessus, ça va. Par contre, ne pas se faire appeler maître. Donc, dans ce cas-là, il faudrait supprimer ce mot de notre vocabulaire pour ceux qui ont certains diplômes, ceux qui ont certaines professions, et puis aussi à l'école, etc. Ne pas se faire appeler père, c'est la même chose. Donc, on devrait enlever ce titre des prêtres, évidemment, mais aussi des pères de famille, et même papa. Papa veut dire père, et dans le mode affectif, mais il faudrait l'enlever, puisqu'il n'y a qu'un seul père, celui du ciel. L'Église catholique l'a jamais compris de cette manière aussi littérale, mais elle l'a compris dans le sens spirituel et profond, et nous invite à le vivre. Ça veut dire ne pas prendre la place du Père du ciel, de qui vient toute paternité, comme dit saint Paul. C'est pourquoi je tombe à genoux, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, je tombe à genoux devant le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Ne pas se tromper de père. C'est pour cela qu'il est important que les papas, que les pères, que les prêtres aussi, sachent s'agenouiller devant Dieu. Alors, physiquement, c'est possible, mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, c'est une attitude spirituelle importante pour montrer que nous n'avons qu'un seul Père, celui du ciel, et que nous tenons tout de lui. Que nous le sommes, que c'est le Seigneur qui nous a confié une mission particulière de refléter la paternité céleste, mais ne pas être un obstacle à cette paternité céleste. Alors demandons au Seigneur, pour nous-mêmes, donc de ne pas tomber dans ce travers. Alors, Jésus nous donne la solution à la fin. Pour éviter tous ces obstacles, eh bien, il suffit d'avoir une attitude, une seule. L'Évangile se termine par ces mots. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. » Et puis nous avons entendu aussi le psaume 130, un psaume, très beau psaume, un psaume thérésien, facile à retenir, pas très long, et très beau dans ce qu'il contient dans sa prière. Je le redis. « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. » Oui, la parole de Dieu, Jésus, nous invite à entretenir, à rechercher la première des vertus, qui est l'humilité. Ce n'est pas la plus grande, mais c'est la première. C'est celle qui nous évite tous les travers et qui nous évite de grandir dans une forme de sainteté qui ne serait pas la sainteté, mais qui serait en forme, une forme de perfection extérieure où nous en tirerions profit. Donc recherchons l'humilité, recherchons-la constamment. Recherchons, notre manière de dire l'humilité, c'est la pauvreté du cœur. Non pas d'un comportement extérieur, trop extérieur, qui peut d'ailleurs aussi cacher une fausse humilité et qui est de l'orgueil. Mais une attitude du cœur qui nous donne la joie de choisir, la joie de choisir la dernière place. Choisir. La petite Thérèse de Lisieux insistait beaucoup sur le fait qu'il fallait choisir la dernière place. Elle ne nous est pas imposée. Et choisir d'être serviteur. Être heureux d'être ce que nous sommes aujourd'hui, sans nous comparer à nos frères. Cela évite d'ailleurs le découragement qui, pour la petite Thérèse de Lisieux, est aussi de l'orgueil. Choisir la dernière place, choisir d'être serviteur et ne pas se comparer, être heureux de ce que l'on est. Voilà le moyen que nous donne le Seigneur, l'humilité, le moyen que le Seigneur nous donne pour ne pas tomber dans tous ces travers décrits par l'Évangile de ce jour. Alors demandons cette grâce à la Vierge Marie pour nous, et encore une fois je vous rappelle parce que j'insiste, je crois que c'est très important, priez pour vos prêtres sur ce sujet, nous en avons besoin. Et puis, une manière, donc, en se confiant à la Vierge Marie et peut-être en se consacrant à Jésus par les mains de Marie, comme la paroisse vous le propose, hein, ça commence d'ailleurs aujourd'hui, hein, le cheminement, les préparations de la consécration commencent aujourd'hui, 33 jours de préparation. Donc nous vous invitons à le vivre parce que cela, la Vierge Marie peut nous aider à cheminer dans la sainteté et l'humilité. Amen.